On retrouve bien sûr Edouard Dupénoat pour rappel sur l'actualité.
Passez une bonne journée Sébastien Duhamel, l'actualité sur le continent revient à 12h30 TU avec Benoît Almeyras.
Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Edouard Dupénoat.
Il y aura plus de 2 milliards d'euros mobilisés, c'était ce qu'annonçait, ce qu'essayait de promettre hier soir Emmanuel Macron, le président français. Il le disait en conclusion d'une conférence humanitaire sur le Soudan. Nous étions le 15 avril, cela faisait juste un an que la guerre entre deux généraux avait éclaté, d'abord à Khartoum. Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l'armée régulière et Mohamed Hamdan Daglo dit Emeti. La guerre a très largement essaimé dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi dans de vastes parties du Soudan. Khartoum d'abord, le Kordofan, le Darfour aussi à l'ouest du pays. Cette guerre, elle a fait au minimum, au bas mot, 15 000 morts. Ce sont les chiffres que donne une ONG spécialisée à Kled. Le bilan est très largement sous-évalué. Elle a fait aussi 8 600 000 personnes déplacées, dont quasiment 2 millions à l'extérieur des frontières soudanaises. On veut vous entendre ce matin, auditeurs et auditrices de RFI, sur les conséquences concrètes que cette guerre a eues sur votre quotidien, notamment dans les pays voisins du Soudan. C'est par le Tchad que l'on va commencer. Le Tchad qui accueille pratiquement 600 000 réfugiés venus du Soudan, juste à l'est. Et justement, on commence avec Roland qui nous appelle d'Abéché, ville de l'est du Tchad, proche de la frontière soudanaise. Bonjour Roland, soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI.
Bonjour Edouard et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde.
Roland, vous nous expliquez que seules quelques ONG peuvent assurer le minimum de soins pour ces centaines de milliers de personnes qui ont fui les provinces du Darfour voisine de la frontière tchadienne.
Oui, actuellement, là, c'est quelques ONG seulement qui assurent le maintien de ces quelques réfugiés qui sont actuellement à Adré et à Abéché. Donc, il est question pour que la communauté internationale puisse se pencher sur ce volet humanitaire pour qu'on puisse ensemble essayer de remettre les choses sur la bonne voie pour que ces réfugiés arrivent quand même à avoir le maximum de points préalables qu'il désire.
Communauté internationale qui est restée pour l'instant très largement impuissante. Les deux principaux camps belligérants n'étaient pas conviés hier à la conférence de Paris sur la paix. L'envoyé spécial américain Tom Perriello avait annoncé que le 18 avril, dans deux jours, donc de nouveaux pourparlers devraient s'ouvrir à Jeddah en Arabie Saoudite. Vous avez peut-être entendu sur l'antenne de RFI les autorités de Djibouti estimer que cette conférence qui va être organisée de nouveau à Jeddah était une bonne chose, mais qu'il fallait impérativement que la plateforme IGAD, c'est-à-dire la sous-région de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique et de l'Union africaine, reprenne la main sur ce dossier. Hosanna, vous êtes en ligne avec nous de N'Djamena et vous vouliez nous parler de l'impact économique énorme qu'a eu cette année de guerre au Soudan voisin.
Oui, bonjour Edouard.
Bonjour.
Effectivement, cette guerre a paralysé en fait l'économie tchadienne parce que depuis le début du conflit, le Tchad importe beaucoup de ses marchandises du Soudan, du Cameroun et du Nigeria. Mais depuis que la guerre a commencé, le Tchad n'arrive pas à importer ses marchandises via le port de Soudan. Donc ça fait qu'il y a un peu la cherté de vie et également la rareté des marchandises sur le marché tchadien. Ça fait qu'il y a au moins des prix exorbitants qui paralysent tout en sorte l'économie tchadienne. Donc il va falloir mettre fin à cette guerre pour au moins, non pas seulement pour le peuple soudanais, mais aussi pour les pays voisins et notamment pour la sous-région.
Concrètement, Hosanna, est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit de ces produits, soit dont le prix a explosé depuis qu'ils ne peuvent plus transiter par port Soudan et arriver au Tchad par la frontière, ou bien de produits que simplement vous ne pouvez plus trouver, vous, à N'Djamena?
Effectivement, il y a des produits de matières premières, nécessairement comme le sucre, le thé, et également des produits venant d'Europe, surtout les matières les produits industrialisés qui transitent par le port de Soudan, on fait qu'il y a au moins une rareté et puis des prix exorbitants ici à N'Djamena. Parce que depuis le début de ce conflit, les prix ne font que grimper et jusqu'à là, rien de concret sur les prix.
Hosanna, je vous remercie pour votre appel, votre témoignage dans Appel sur l'actualité. Emmanuel, qui est avec nous en ligne de Djouba, nous dit quelque chose de sensiblement similaire, il me semble. Emmanuel, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les Radio France Internationale.
Vous le disiez hors antenne, ici aussi, donc à Djouba, capitale du Soudan du Sud, les prix ont explosé depuis que cette guerre a éclaté.
Oui, effectivement, les prix sont explosés depuis l'année dernière, où on avait presque $1 américain qui s'achetait à des murs et à du sud soudanais. Mais actuellement, on a $1 qui s'achète à 25 murs et pas au sud soudanais. Donc, il y a un impact qui se manifeste du côté du sud soudanais.
Alors, vous parlez de l'impact sur les prix. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vu notamment dans l'approvisionnement de certains marchés de Djouba, des produits que vous ne pouvez plus trouver, des produits qui sont devenus hors de prix, par exemple?
Oui, par exemple, des produits qui venaient du côté des sud soudanais, c'est catastrophique. On ne peut pas avoir à un prix normal. Si vous trouvez quelque chose, c'est toujours une hausse de prix qui n'est pas vraiment normale.
Alors, merci de nous avoir appelé, de nous avoir fait part de votre témoignage. J'aimerais vous lire aussi cette réaction que William, qui est à Paris, nous a envoyée sur WhatsApp. Cette guerre, nous dit William, ne profite de toute façon qu'à ceux qui l'ont cherché, c'est-à-dire à ces deux généraux soudanais. Les Soudanais meurent sans pourtant qu'ils sachent pourquoi. C'est vraiment malheureux. Kossi, vous êtes en ligne avec nous de Sal, c'est dans l'archipel du Cap-Vert. Merci de nous avoir appelé.
Bonjour la Radio du Monde. Bonjour Edouard. Au milieu de la RFI.
Vous nous expliquiez que vous aviez travaillé au Soudan jusqu'au début de la guerre.
Oui, exact. Oui, j'étais à l'école internationale de Khartoum en tant qu'enseignant. Et dans la nuit du 15 mars, et nous attendons les tirs et on est réveillé sous une pluie de bombes. Et dans mon quartier, Al-Safia, il y avait une base militaire, donc on attendait les tirs sans qu'on sache ce qui se passe.
Kossi, vous expliquiez aussi que, selon vous, la seule solution pour que éventuellement les armes se taisent, ce serait que les deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Abdan Daglo, discutent et fassent des concessions. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas vraiment dans les médiations ni sous-régionales, celles de l'IGAD, ni continentales, l'Union africaine, et encore moins dans les médiations, les éventuelles médiations internationales?
Oui, le sentiment... Bon, les deux protagonistes n'ont pas confiance aux interlocuteurs crédibles. Jusqu'à présent, l'ONU a du mal à trouver un interlocuteur crédible pour pouvoir faire asseoir les deux généraux autour d'une table et discuter. Bon, la solution probable actuellement, c'est de cesser la guerre et voir devant. Et aussi, il faut consulter aussi les acteurs externes de la guerre, les soutiens de chaque côté. Il faut essayer de les rassembler autour d'une table et arrêter cette guerre qui ne profite pas aux Soudanais.
Kossi, merci beaucoup. Vous faites effectivement référence à ces multiples soutiens réels ou supposés de pays du Golfe, de pays plus lointains, dont bénéficieraient aussi les deux principaux belligérants du conflit. Merci de nous avoir appelé au 33 9 693 693 70. Vous nous écoutez de Sal, qui est dans l'archipel du Cap-Vert. Est-ce qu'on est parvenu à joindre Ashley à Bangui, la capitale centrafricaine? Ashley n'est pas en ligne avec nous de Bangui, mais Cyril nous a appelé aussi de la capitale centrafricaine. Bonjour Cyril, soyez le bienvenu sur l'antenne.
Bonjour chers amis.
Vous aviez vous aussi un témoignage à nous faire parvenir sur la difficulté de la République centrafricaine à gérer aussi le flux de réfugiés venus du Soudan.
Effectivement, parce que déjà en 2023, il y a 2,4 millions de personnes en Centrafrique qui ont besoin d'assistance humanitaire. Mais aujourd'hui, avec cette guerre qu'il y a au Soudan, on compte environ 3000 personnes qui ont traversé la frontière et qui sont en ce moment en Centrafrique. Et cela cause d'énormes difficultés au gouvernement centrafricain à répondre donc aux besoins, tout en sachant que nous sommes un pays qui vit sous l'assistance humanitaire, majoritairement. Donc, au-delà de l'humanitaire que ce problème, cette guerre cause en RCA, il y a aussi le fait que toute la zone centrale est aujourd'hui classée zone rouge par certains partenaires. Par exemple, moi, je devais participer à une formation il y a quelques mois en arrière mais le consultant qui était un Britannique ne pouvait pas venir en Centrafrique parce que la zone sous-régionale est classée zone rouge. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'opportunités que la RCA perd avec ses partenaires parce que la zone est jugée inaccessible par certains partenaires occidentaux ou bien européens. Donc vraiment, c'est une difficulté énorme que nous avons à cause de cette guerre, hormis les difficultés liées à la rareté des produits, à l'augmentation des prix. Mais notre pays n'a pas les capacités nécessaires pour absorber la demande supplémentaire en termes de réponse humanitaire. Donc vraiment, cette guerre doit prendre fin et nous voulons que la communauté internationale passe de l'idée à l'action pour qu'on puisse trouver des solutions durables à cette guerre, comme on le fait en ce moment en Ukraine, également en Palestine. Parce que nous sommes aussi un peuple qui souffre et il faut qu'on nous assiste, vraiment.
Cyril, selon vous, est-ce que il serait plus important pour la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la résolution de ce conflit, même s'il y a eu plusieurs tentatives disparates depuis un an qui n'ont pas donné de résultats tangibles, ou de s'impliquer plus fortement auprès des États voisins, notamment je pense à celui qui vous concerne au premier chef, la Centrafrique, pour l'aider à faire face à l'afflux de réfugiés et aux difficultés pratiques et logistiques que vous nous évoquiez?
Moi, je pense qu'il faut agir sur les deux volets, comme vous l'avez dit. D'abord, il faut savoir que c'est la guerre qui a causé les difficultés au niveau sous-régional. Donc, il faut d'abord que la communauté internationale prenne des résolutions fortes, mais également engage des actions sérieuses pour pouvoir stopper la guerre et stopper donc les flux migratoires. Maintenant, ensuite, parallèlement, il faut voir que des pays comme la RCA sont des pays qui sont extrêmement fragiles et que cette guerre va contribuer davantage à les fragiliser. Donc, au même moment qu'on trouve une solution pour arrêter la guerre, spontanément qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la souffrance des pays comme la RCA, le Tchad, qui sont déjà affectés par des crises internes. Donc, il faut une solution couplée, en même temps arrêter la guerre et en même temps essayer donc de soulager la souffrance des pays frontaliers au Soudan qui sont impactés par ce conflit. Moi, je pense qu'il est possible de le faire parce qu'au niveau de l'Ukraine, beaucoup d'actions sont menées en ce moment en Ukraine pour aider les Ukrainiens. Beaucoup d'argent sont investis et beaucoup de volonté des volontaires français et européens s'engagent pour aider l'Ukraine.
Cyril,
donc, je pense que la RCA, le Soudan...
Je vous remercie d'ouvrir ce chapitre parce que justement ça fait écho à ce que vous évoquiez il y a quelques minutes au début de votre intervention. Vous disiez aussi pourquoi ce conflit au Soudan n'est-il pas médiatisé comme celui des autres continents. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à ce propos vous retrouvez sur notre site internet un entretien que David Kalfa avait mené avec Virgil Hawkins, professeur à l'école de politique publique internationale, qui parlait de ces différences de médiatisation entre les conflits, notamment la différence flagrante entre la guerre en Ukraine, la guerre que Israël mène dans la bande de Gaza et ce conflit au Soudan. Tout cela, c'est sur RFI.fr. Et ça me permet aussi de basculer sur le témoignage d'Alan, qui est en ligne avec nous de Nairobi. Alan, bonjour, est-ce que vous nous entendez ?
Bonjour, oui, je vous entends très clairement. Est-ce que vous m'entendez ?
On vous entend très bien aussi. Et vous nous le disiez hors antenne, malheureusement, c'est une guerre qui est souvent oubliée.
Oui, c'est vrai, c'est une guerre oubliée parce que d'une part... Il y a la dimension internationale, mais de l'autre part, en fait, on ne parle pas suffisamment de cette guerre comme il faut. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il y a, bien sûr, le cauchemar humanitaire, mais aussi, comment pourrait-on expliquer que l'un des belligérants a pu visiter 6 pays africains officiellement? Il a été accueilli de la palace présidentielle de 6 pays de l'Afrique du Sud, du Soudan du Sud, de l'Ouganda, du Djibouti, du Kenya, de l'Éthiopie, du Soudan du Sud. Ça veut dire qu'il y a le manque de volonté, une vraie volonté, bonne volonté pour en finir avec cette guerre. Parce que comment pourrait-on expliquer qu'il y a 2 belligérants, qu'il y a 2 généraux, qu'il y a suffisamment d'armées, il y a des armes partout.
Effectivement,
plus que alors, jamais.
Le Abdel Fattah al-Burhan avait visité plusieurs pays il y a de cela quelques mois, mais est-ce que ce n'est pas une manière de recevoir au moins le premier de ces 2 belligérants pour trouver peut-être une manière d'avancer vers la paix?
Oui, je vous comprends. Mais s'il y a 2 belligérants, donc il faut les écouter, il faut écouter les 2. Ça ne veut pas dire que je suis dit l'un des 2 belligérants. Mais le problème, c'est quand je parle de manque de bonne volonté, ça veut dire qu'il faut s'asseoir, avoir les 2 généraux, peut-être au niveau de l'IGAD ou bien au niveau de l'Union africaine, avoir les 2 au plus tôt qu'avoir une visite officielle, entre guillemets, par l'un des belligérants dans plusieurs pays africains.
pour vous, c'est l'Union africaine qui doit assumer un rôle beaucoup plus actif dans la résolution, ou en tout cas les tentatives de résolution de cette crise.
Oh là là, Juan, malheureusement, je dirais que oui, si on dirait que l'Union africaine avait en fait la bonne volonté, je dirais oui. Mais malheureusement, je crois que plutôt l'IGAD et ses forces cachées. On sait bien que les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Russie, l'Iran et les Émirats arabes unis ont tous leurs intérêts dans ce conflit au Soudan.
Des intérêts, effectivement, des allégations de soutien à tel ou tel camp. Et en fait, si je vous comprends bien, c'est parce que toutes ces puissances étrangères ont des intérêts plus ou moins avoués qu'elles devraient être totalement exclues d'éventuels pour parler de paix. Seule l'Union...
Ou bien inviter tous ces pays avec l'Union africaine et l'IGAD. Pourquoi pas?
Alors, vous parlez d'une potentielle implication plus forte de l'Union africaine. Notre dernier auditeur qui nous appelle de Kédougou, au sud-ouest du Sénégal, parle même plus que d'implication. Il faudrait des sanctions. Haruna, bonjour. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour Edouard. Bonjour à tous les auditeurs de RFI Appel sur la qualité.
Alors, implication peut-être. Vous, Haruna, vous militez ouvertement pour des sanctions, en tout cas continentales.
Oui, selon moi, je pense qu'il faudra passer à la vitesse supérieure. Je pense que ce conflit a trop duré et a fait trop de dégâts sur le plan économique et humanitaire, sous l'indifférence, je dirais, générale de la communauté internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas traiter les parents, les Soudanais et le Soudan comme des parents pauvres. De la même manière qu'on regarde les enfants de l'Israël, les enfants ukrainiens ou de la RDC, je pense que c'est de la même manière qu'on doit traiter le peuple soudanais en quelque sorte. Je pense qu'aujourd'hui, moi je propose qu'il y ait des embargos, parce que des embargos pour vraiment bloquer l'arrivée des armes dans le Soudan. Parce que aussi, on pourra se demander à qui profite cette guerre entre les deux généraux qui n'a rien à voir avec le peuple soudanais en quelque sorte. Je pense que si la communauté internationale parvient à faire un embargo et à bloquer les avoirs de ces deux belligérants-là, ils vont s'asseoir autour d'une table et trouver une solution pour l'entrée du Soudan et des Soudanais en quelque sorte.
Quelques heures après la conférence de Paris d'hier, la Grande-Bretagne avait d'ailleurs annoncé un nouveau volet de sanctions contre des entreprises accusées d'être impliquées dans ces trafics au Soudan. À propos de cette conférence, Haruna aussi, vous saluez en tout cas les promesses de dons qui ont été effectuées hier.
Oui, je salue vraiment la démarche de Paris, c'est-à-dire la somme colossale qui a été annoncée, mais je reste encore sceptique. Est-ce que ces fonds-là seront dans la bonne destination, seront destinés aux Soudanais, aux nécessiteux en quelque sorte, parce que un pays qui n'est pas gouverné, qui n'a pas de régime légitime, légal, est-ce que les fonds seront destinés en quelque sorte à ces derniers-là? C'est ça ma principale question aujourd'hui.
Haruna, merci beaucoup de nous avoir fait part de votre témoignage, de vos interrogations. Je rappelle que vous nous appeliez de Kédougou, au sud-ouest du Sénégal. Plusieurs éléments à vous donner encore sur cette année de conflit au Soudan. Cette série de reportages que RFI diffuse cette semaine sur le quotidien des réfugiés au Tchad. Et puis le grand reportage du jour, signé de notre correspondante au Caire, Léonie Lebrun, L'exil sans terre promise. Vous l'écoutez sur RFI.fr. où vous retrouvez aussi le podcast d'Alexandra Cagnard, témoin d'actu. Comment est-ce qu'un média comme RFI arrive, vaille que vaille, à donner la parole aux Soudanaises et aux Soudanais, malgré la chape de plomb médiatique qui s'est abattue sur le pays depuis plus d'un an. Merci de votre participation.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
C'est la fin de cette émission d'Appel sur l'actualité. Le journal revient dans une trentaine de secondes. Et puis vous retrouverez Raphaël Constant pour Priorité Santé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous, on va parler des conséquences de l'air pollué sur la santé. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique est responsable de 7 millions de décès chaque année. Et elle engendre des maladies comme l'asthme, la bronchopneumopathie, l'accident cardiovasculaire ou encore le cancer du poumon. Alors, quelles sont les sources de pollution pollution et comment s'en protéger. Vos témoignages, vos questions et nos invités seront évidemment à votre écoute. Ce sera dans 10 minutes, juste après le journal.
Merci beaucoup Raphaël et à tout de suite.